franceinter.fr. La science de l'environnement, en partenariat avec reporter.net, le quotidien de l'écologie.
Agir contre le réchauffement climatique peut aussi nuire à la biodiversité, à la une de la science aujourd'hui. Cette étude américaine parue justement aujourd'hui et qui montre que la transition vers les cultures dédiées aux biocarburants menace les abeilles et les apiculteurs. Pour en parler, Jean-François Sylvain, vous êtes avec nous en ligne. Bonjour.
Bonjour à vous, bon anniversaire.
Merci.
Bonjour aux auditeurs.
Vous êtes directeur de recherche à l'IRD, président de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Et puis avec nous dans ce studio, Hervé Kempf, notre partenaire pour cette une avec reporter.net. Bonjour Hervé.
Bonjour Mathieu et bon anniversaire.
Et reprise de la chronique en cette rentrée. On connaissait, Hervé, les herbicides, les parasites et les maladies. Il faut donc maintenant rajouter les cultures énergétiques sur la liste des menaces qui pèsent sur les pollinisateurs.
Oui, tout à fait. Alors pour bien comprendre cette étude parue dans la revue de l'Académie des sciences des États-Unis tout récemment, il faut savoir qu'aux États-Unis, dans les grandes plaines, il y a un mouvement très important chaque année de colonies d'abeilles. Elles passent l'été dans ces régions et ensuite elles sont transportées à travers les États-Unis pour polliniser d'autres cultures telles que les amandes, les melons, les pommes, les cerises. Et au total, cette pollinisation par les abeilles concerne un tiers de la production agricole des États-Unis. Donc c'est extrêmement important. Mmh. En termes financiers, ça représente 15 milliards de dollars chaque année. Mais voilà, aux États-Unis comme ailleurs, les abeilles sont vraiment en crise, en grande difficulté. Et depuis une décennie, on enregistre une perte de 30% des colonies. Alors les causes, c'est souvent, vous l'avez dit, les pesticides, les maladies, les parasites. Mais aussi une cause qui est oubliée, c'est le changement d'usage des sols. Et c'est l'étude qu'a faite cette équipe du nord des États-Unis d'analyser qu'est-ce qui s'était passé, notamment dans les régions où il y a le plus de colonies d'abeilles qui sont en été, surtout dans le Dakota du Nord et du Sud. Ils ont étudié l'évolution de ces lieux avec une analyse sur 18 000 ruchers. Et le constat, c'est que l'évolution très rapide de l'usage des sols, du fait que les prairies, notamment, ont été remplacées par des cultures de maïs et de soja pour les productions d'agrocarburants, ont eu un énorme effet négatif sur les abeilles, pour deux raisons. D'une part, ça réduit la végétation disponible qu'elles peuvent, ces abeilles, exploiter. Et puis, par ailleurs, ça les soumet à des très forts taux de pesticides, puisque les pesticides sont utilisés massivement pour la production des cultures d'agrocarburants.
Alors Jean-François Sylvain, Hervé a donné un bout de la réponse. Comment est-ce que ces nouvelles cultures de soja, de colza, de maïs perturbent les abeilles?
Alors, l'intérêt du papier, de l'article que vous citez, qui fait l'objet de cette réflexion, c'est justement, il rentre pas directement dans cette question de la manière dont ces cultures perturbent, mais dans la manière dont les apiculteurs vont se positionner par rapport à ces surfaces. Donc, dans le cas du maïs, par exemple, c'est une plante où la pollinisation se fait par le vent. Le soja, c'est une plante qui est considérée comme globalement, généralement autogame, autoféconde, même si ce n'est pas complètement, disons, il peut y avoir de la pollinisation par les insectes, par les abeilles. Et donc, ces apiculteurs américains vont fuir les zones qu'ils utilisaient auparavant lorsqu'il y avait une diversité de plantations qui permettaient de fournir donc des ressources pour les abeilles. Et lorsque ces zones sont transformées par ce changement d'usage des terres en zone de monoculture de plantes énergétiques, eh bien, les apiculteurs vont les éviter. Donc, on voit sur les cartes qui sont proposées dans le cadre de l'article, on voit cette expansion des zones de culture énergétique qui se traduisent donc par un évitement de la part des apiculteurs et donc par le fait que les abeilles vont avoir de moins en moins d'habitats favorables à disposition dans cette zone du nord des États-Unis.
Est-ce que ce phénomène peut arriver en Europe? Est-ce qu'on cultive ce genre de céréales pour en faire des carburants de la même manière?
Alors, les situations sont assez différentes. Vous avez très bien explicité, je dirais, le mode de fonctionnement d'une certaine apiculture industrielle aux États-Unis, qu'on ne va pas retrouver, par exemple, dans un pays comme la France. Et deuxièmement, la France, par exemple, a plutôt dans sa stratégie énergétique mis l'accent donc sur la biométhanisation, etc. Et avec une grande prudence par rapport, sur la filière méthane, une grande prudence par rapport à l'expansion justement de ces cultures de plantes énergétiques. grande prudence, motivée justement en partie par l'exemple allemand où il semble qu'il y ait eu que le développement des cultures énergétiques se soit fait aux dépens des cultures alimentaires, et c'est pas nécessairement le but. Donc, dans le cadre de la loi de transition énergétique, l'utilisation de cultures énergétiques dans la filière méthane est normalement limitée. Il y a un chiffre, 15% du tonnage brut des intrants. Il peut y avoir des adaptations. Donc on n'est pas vraiment dans la même situation, au moins en ce qui concerne la France. Et aussi, en France, on n'utilise pas de la même façon les abeilles. Il n'y a pas ces processus, je dirais, d'utilisation à finalité de productivité agricole des colonies d'abeilles. Bon, il y a de la transhumance, mais plutôt pour justement permettre une meilleure survie des abeilles vers les zones, en fonction des saisons, les plus riches en diversité végétale.
Axel Kahn.
Oui, depuis la fin des années 2000, début du siècle, en réalité, de plus en plus de spécialistes pensent que l'utilisation massive des biocarburants était une fausse bonne idée. D'abord parce que, avec l'agriculture industrielle, le bilan énergétique global de la culture de ces biocarburants n'est pas du tout intéressant. Les gaz à effet de serre par l'essence et tout ce que vous voulez de ce côté-là sont tout à fait importants. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, et mon collègue l'a dit, de l'IRD l'a dit, aujourd'hui, avec la pression pour la production alimentaire qui existe, distraire des surfaces importantes pour cultiver des plantes énergétiques n'est sans doute pas une bonne idée. Et troisièmement, c'est un troisième élément, la pression écologique sur les conditions de pollinisation par les abeilles, sur la nourriture des abeilles, est une nouvelle menace. Donc réellement, ça n'est pas une bonne idée.
Ouais, Hervé Kempf, vous confirmez sur justement l'utilisation des biocarburants pour faire baisser les gaz à effet de serre, par exemple ?
Oui, tout à fait, parce que c'est quand même bien étudié aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, l'EPA, l'Environmental Protection Agency, le ministère de la Protection de l'Environnement, a fait des études qui montrent que l'éthanol à base de maïs ou le butanol à base de maïs ne permet un gain de 30% d'émissions de gaz à effet de serre. Mais ceci sans prendre en compte la modification de l'usage des sols, et ça pose le vrai problème, parce que si vous réduisez la production agricole aux États-Unis et en Europe pour fabriquer des agrocarburants, ça veut dire que cette production agricole en moins aura besoin d'être compensée ailleurs, et ça poussera dans d'autres pays à déforester ou à changer vers une agriculture plus productive qui du coup aura un effet d'émission de gaz à effet de serre extrêmement important. Donc le bilan global est manifestement négatif.
Allez, dernière question très rapidement à Jean-François Sylvain. Axel,
oui, est-ce que vous avez l'impression que l'urgence de l'action climatique aujourd'hui se fait en oubliant la biodiversité ?
J'aurais tendance à dire, je vous remercie de cette question. Je ne dirais pas que ça, on oublie, on peut oublier la biodiversité. La recherche des solutions aujourd'hui face à l'importance, à l'urgence des questions liées au changement climatique fait qu'un certain nombre de scientifiques s'inquiètent du risque que la biodiversité soit, serve un peu de variable d'ajustement face dans ces différentes solutions, soit passe au second rang des priorités. C'est pour ça qu'on essaye de rappeler qu'il est important de traiter en même temps le défi climatique et le défi du devenir de la biodiversité, et de ne pas oublier non plus que au niveau du fonctionnement de la biodiversité, dans la biodiversité elle-même, elle peut contribuer aux solutions face au changement climatique.
Allez, étude parue donc aujourd'hui dans les PNAS que vous commentiez pour nous, Jean-François Sylvain. Merci beaucoup, merci à vous Hervé Kempf. On se retrouve la semaine prochaine avec reporter.net et à tout à l'heure.
Bah oui, à tout à l'heure.
Quand même, petit coup de champagne, Axel Villard. Merci, à tout à l'heure.